VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes au Nigeria, appel de l'ONG humanitaire ACF. Action contre la faim aujourd'hui en faveur de la libération de 6 de ses employés, dont une femme enlevée il y a une semaine dans le nord-est du pays par la faction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique. Le groupe nigérian de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a diffusé ce jeudi une vidéo dans laquelle une femme vêtue d'un hijab bleu clair affirme en anglais être membre de l'ONG humanitaire française et avoir été enlevée avec ses 5 collègues assis derrière elle sur la vidéo. La jeune femme demande à son employeur ainsi qu'aux autorités nigérianes qui n'ont pas encore réagi d'aider à leur libération. Ce sont des travailleurs humanitaires et de santé qui ont choisi de consacrer leur vie à accompagner les communautés les plus vulnérables du Nigeria et ne sont animés que par des principes de solidarité, d'humanité et de neutralité, affirme ACF dans son communiqué réclamant la libération des captifs qui travaillaient dans la région de Damasak dans l'état de Borno. Au Niger voisin, importante saisie d'armes à feu à l'entrée de Niamey, la capitale, une dizaine de kalachnikovs et des pistolets automatiques ainsi que leurs chargeurs ont été retrouvés sur un individu mercredi dans un bus en provenance du Mali. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Selon des sources de VOA Afrique, c'est aux environs de 16h30 temps universel ce mercredi 24 juillet 2019 que la saisie est opérée sur un individu de nationalité nigériane au poste de contrôle de Bangoula à l'entrée ouest de Niamey. 11 Kalachnikov et 7 pistolets automatiques, chacun avec son chargeur et un fusil mitrailleur dissimulés dans des sacs de maïs transportés par un bus en provenance de Gao au Mali. Le bus est alors escorté au commissariat du 1er arrondissement communal de la ville de Niamey, l'individu mis aux arrêts et une enquête ouverte. C'est une des importantes saisies d'armes ainsi opérées à Niamey, mais beaucoup de citoyens se posent la question sur les conditions dans lesquelles le bus a pu traverser deux départements de la région de Tillabéri qui sont tous sous état d'urgence depuis 2018 du fait de la situation sécuritaire. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Cameroun, plusieurs opposants du parti d'opposition MRC, détenus à la prison centrale de Yaoundé, ont été, selon leurs avocats, brutalement enlevés pour une destination inconnue après la mutinerie de lundi soir dans ce pénitencier. Le gouvernement camerounais a annoncé de son côté l'interpellation de 177 détenus à des fins d'enquête sur les violences. Pour en savoir plus, Nathalie Barge a joint Maximilien Ngo Mbé, directrice du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale.
La situation des prisonniers politiques au Cameroun nous préoccupe. Tout le monde a vu hier à Mondo Visio qu'un des prisonniers politiques a été baladé à pratiquement en nu alors qu'il y avait une mutinerie. Et ça, ce ne sont pas des choses qui nous rassurent au moment où nous réitérons que les prisonniers politiques, il faudrait purement et simplement les libérer. C'est depuis l'adoption de la loi antiterroriste depuis 2014 que la situation au Cameroun est devenue assez difficile pour tous ceux qui sont activistes, défenseurs des droits de l'homme ou bien membres des partis politiques. Le Cameroun compte aujourd'hui, dans ses geôles, au moins 1000 prisonniers politiques, de par toutes les crises qui s'en sont suivies.
Alors en ce qui concerne les militants du MRC qui ont donc été interpellés hier, qui manifestaient dans la prison centrale de Yaoundé, est-ce qu'on en sait un petit peu plus aujourd'hui sur leur situation ?
C'est un flou orchestré et qu'on ne peut pas, dans une situation où hier on a arrêté tout le monde en leur impliquant, n'est-ce pas, les mêmes faits, et aujourd'hui on trouve certains et on ne trouve pas les autres. Donc une fois encore, il faudrait que tous ceux qui ont été arrêtés dans ce cas de hier, un, qu'on nous dise là où ils sont, qu'est-ce qu'on leur reproche, et en même temps qu'on nous dise comment ça se fait que pour quelque chose qui a commencé par des revendications normales, ça dégénère et puis il y a des boucs émissaires qu'on va arrêter. Le mouvement mouvement a commencé juste avec les activistes de la crise anglophone qui ont demandé que ça fait 2 ans ils sont là, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils n'ont jamais vu un juge et ils demandent de sortir. On ne peut pas faire le distinguo entre les activistes et les grands bandits qui sont d'ailleurs là-dedans. Chacun a essayé de profiter au maximum. C'est assez grave.
Quelle est la durée légale de détention provisoire au Cameroun?
48 heures renouvelables 2 fois.
Quant aux conditions de détention dans certaines prisons au Cameroun, qu'est-ce que vous constatez?
Les prisons du Cameroun ont été construites pendant la colonisation. Donc pour une prison, par exemple, de 800 personnes à Koumbengui, on trouve là aujourd'hui 4000. Et dans les 4000, il y a au moins 3000 qui sont des prévenus, c'est-à-dire qui sont présumés innocents. Pareil, la prison de Douala, ça devait prendre 600 personnes. On a aujourd'hui dans les 3500. Toutes les prisons du Cameroun sont des prisons avec des infrastructures vétustes. Vous n'avez pas de séparation entre les grands brigands, entre les mineurs qui ont peut-être seulement volé parce qu'ils avaient faim, les femmes. La corruption, tout la drogue qui rentre, quand vous sortez de là, vous avez un malaise. Parce qu'il y a des gens qui dorment debout. Et si vous voulez dormir sur le mur, vous payez.
Maximilienne Ngo-Mbe, directrice du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Mouvement de contestation au Soudan, le conseil militaire au pouvoir dans le pays a annoncé mercredi avoir arrêté un général, plusieurs membres du service national de renseignement et de sécurité, ainsi que des dirigeants politiques pour avoir fomenté ce que les généraux à la tête du pays qualifient de coup d'état déjoué le 11 juillet. Les détails avec Ekia Badou.
Le 11 juillet, une tentative de coup d'État a été déjouée au Soudan, a annoncé le jour même le Conseil militaire. Cette instance au pouvoir après un coup d'État le 11 avril ayant mené à la chute d'Omar el-Béchir avait alors précisé que 12 officiers, dont 5 à la retraite, avaient été arrêtés. Mercredi, les militaires ont indiqué que les détenus seront interrogés et présentés devant la justice pour avoir aidé le retour au pouvoir de l'ancien régime du parti du Congrès national, selon le communiqué cité par Souna. Nouvellement nommé chef d'état-major des armées, le général Mohamed Othman Al-Hussein a confirmé ses arrestations lors d'une allocution à la télévision d'État. L'échec du coup d'État le 11 juillet était intervenu alors qu'une rencontre entre des représentants du Conseil militaire et des meneurs de la contestation se tenait à Khartoum pour finaliser les termes d'un accord sur la transition. Le 17 juillet, une déclaration politique a été conclue entre les deux camps, entérinant le principe d'un partage du pouvoir pendant la future période de transition.
Corne de l'Afrique, en Somalie, au moins 6 personnes ont été tuées et 6 autres blessées dans un attentat perpétré mercredi par des militants islamistes Shebab contre les locaux de la mairie de Mogadiscio, la capitale. Plus de détails avec Irénée Herman Umbo.
2 adjoints du maire et 3 directeurs de service ont perdu la vie dans l'attaque. 6 autres personnes ont été blessées, dont le maire de Mogadiscio. Ils sont tous en soins intensifs, selon le ministre de l'Information, Mohamed Abdiyarir Marayé. Selon une source sécuritaire, un kamikaze serait entré dans le bâtiment où avait lieu une réunion et se serait fait exploser. Les forces de sécurité enquêtent sur ce qui s'est passé et fourniront des détails plus tard, a indiqué le ministre de l'Information. L'attaque a été revendiqué par les Shebab affiliés à Al-Qaïda. Selon leur porte-parole, Abdulaziz Abdou Moussab, il visait James Swan, le représentant spécial de l'ONU en Somalie, qui rendait visite mercredi au maire.
Actualité américaine, ici à Washington, l'ancien procureur spécial Robert Mueller a dit hier au Congrès que son enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 n'a pas disculpé le président Donald Trump des soupçons d'entrave à la justice. Mais Donald Trump, lui, a toujours soutenu le contraire et il affirme haut et fort qu'il a été exonéré par le rapport de M. Mueller. Le compte-rendu de Jean-Roger Bion.
Robert Mueller a expliqué qu'une politique du ministère de la Justice interdit l'inculpation d'un président en exercice. C'est pourquoi, a-t-il dit, je cite, « Dans nos conclusions, nous avons décidé que nous ne dirions pas si le président avait commis un délit. C'était notre décision et ça le reste. Fin de citation. Mais M. Müller a affirmé en réponse à une question que le président pourrait être inculpé une fois qu'il aurait quitté la Maison-Blanche. En réaction, le président Trump a dit que M. Müller avait livré l'une des pires performances de l'histoire du pays et n'avait rien apporté pour étayer ce canular ridicule, cette chasse aux sorcières. M. Müller a fait valoir que son enquête n'était ni une chasse aux sorcières, ni un canular.
Et pour terminer, en Tunisie, décès du président Béji Caïd Essebsi ce jeudi à l'âge de 92 ans. Le chef de l'État est mort quelques heures après son hospitalisation en soins intensifs hier, il y a quelques mois seulement de la fin de son mandat. Béji Caïd Essebsi était le plus vieux chef d'État en exercice dans le monde, après la reine Elisabeth d'Angleterre. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.